Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Un jour, je rencontrais une dame qui m'annonça être déjà sauvée. Je lui demandai en quoi elle basait cette certitude, et elle me cita la réponse que Paul et Silas firent au geôlier « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Je lui fis remarquer qu'elle tirait un verset hors de son contexte, qu'elle s'en contentait et qu'elle annulait par la même occasion quantité de passages bibliques expliquant ce qu'il faut faire pour être sauvé. Paul et Silas, excédés par une servante qui les suivait en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut », avaient chassé de cette femme le démon qui, par sa divination, procurait un grand profit au maître de cette servante. Cette intervention leur valut d'être battus et jetés en prison. Le geôlier qui avait reçu instruction de les placer dans un endroit sûr, les jeta dans la prison intérieure, qui était considérée comme le quartier haute sécurité de l'époque, et il leur fit mettre les ceps aux pieds. Dans son récit, Luc raconte que, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Paul et Silas étaient incarcérés dans la prison intérieure, une sorte de cachot, lorsque par suite du tremblement de terre, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers se rompirent. Constatant les portes de la prison ouvertes, le geôlier, persuadé que tous les prisonniers s'étaient échappés, voulut se suicider. Il savait que, selon la loi romaine, un gardien qui laissait s'échapper un condamné était passible de la même peine qui avait été prononcée contre l'évadé. Mais Paul l'arrêta dans son geste suicidaire en lui criant d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Dieu venait d'accomplir une série de miracles. Le tremblement de terre, l'ouverture des portes, la rupture des liens de tous les prisonniers. Ces miracles accréditaient les prédications de Paul et Silas aux yeux de tous les témoins. Le geôlier fit amener des torches. Avait-il entendu les chants de louange de Paul et Silas? Ou avait-il été au courant des déclarations de la servante qui disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». Toujours est-il qu'il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les fit sortir de la section intérieure de la prison et leur dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas prirent le temps de lui expliquer, ainsi qu'à tous ceux de sa maison qui l'avaient suivi, la parole du Seigneur. Dans ce passage, le mot « parole » est traduit du grec « logos » qui a aussi le sens d'un enseignement. Après cela, le geôlier les emmena, lava leurs plaies et enfin, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il leur offrit l'hospitalité, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quelle était donc la parole du Seigneur que Paul et Silas enseignèrent au geôlier et à tous ceux de sa maison? Était-ce un évangile sur la personne du Christ? Nous retrouvons ce même mot dans de nombreux passages. Par exemple, que dit Jésus? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il est évident que Jésus ne donna pas à ses Juifs un évangile sur sa personne. Il leur enseigna sa doctrine. Dans la prière qu'il adresse à son Père, peu avant son arrestation, il déclare « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu représente, bien entendu, les doctrines bibliques, les enseignements bibliques. Après la Pentecôte, Pierre et Jean enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ces deux apôtres enseignaient non pas la personne de Jésus, mais la résurrection des morts en la résurrection du Christ. Pourquoi ? Parce que nous serons sauvés par la vie du Christ. Sa résurrection est notre promesse de vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne sera pleinement accordée que lors de la résurrection. Paul était à Corinthe. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il est toujours question ici du mot grec « logos » qui a le sens d'enseignement, de doctrine. L'apôtre Jean écrit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et cette parole est et reste toujours les doctrines bibliques, non pas celles qui ont été modifiées, transformées par la plupart des prédicateurs depuis des siècles. Le Christ dit à la dernière époque de son Église, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, » et il est toujours question ici du mot grec « logos », et vous rendez bien compte qu'il n'est pas question de la personne du Christ. Il s'agit bel et bien toujours de son enseignement, de ses doctrines. Alors je voudrais vous poser une question très importante. Pensez-vous qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé ? L'apôtre Jacques nous donne la réponse « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, une seule famille divine, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Le Seigneur Jésus est Dieu. Il est membre de la famille divine comme l'apôtre Jean l'écrit affirmant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Les démons le savent. On ne doit pas leur dire de croire au Seigneur Jésus. Ils le savent, ils savent qui il est. Sont-ils sauvés pour autant ? Sont-ils sauvés parce qu'ils savent qui est Jésus ? La réponse est non. Ils tremblent. Ils refusent de se repentir, de changer et de se convertir. Ils espèrent toujours l'emporter sur Dieu. Voilà pourquoi Satan tentera à nouveau de conquérir le trône de Dieu. Il a déjà essayé de le faire avec ses démons, les anges déchus, mais cette seconde tentative, qui s'effectuera avant le retour du Christ, sera aussi vaine que la première. Lorsque Pierre parla à la foule, lors du jour de la Pentecôte, il leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, qu'il soit immergé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un peu plus tard, il dira « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Veuillez remarquer que Pierre ne dit pas « Croyez au Seigneur Jésus et cela est suffisant. » Non, il faut autre chose. Il faut se repentir, se convertir, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître ses transgressions de la grande loi divine. Voilà la repentance. Ensuite, il faut s'y soumettre, vivre en conformité avec elle. Voilà la conversion. Et un esprit converti ne peut être que celui qui décide de vivre sans péché, sans transgresser la loi. Ceux qui enseignent qu'il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvés rejettent tout ce que Pierre transmet dans ses versets. Lorsqu'un jeune homme demanda au Christ ce qu'il devait faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, Jésus ne lui dit pas « Crois en moi et cela suffira ». Non, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus ajoutera à une autre occasion, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il est donc évident que croire au Seigneur Jésus est loin d'être tout ce que doit accomplir tout homme qui recherche le salut. Ces paroles émanent du Christ lui-même. Pouvez-vous mettre en doute ce qu'il affirme et vous considérer encore comme son disciple? Il ne suffit donc pas de croire tout simplement au Seigneur Jésus pour être sauvé. Il faut aussi croire son enseignement et le mettre en pratique. Voilà ce que signifient les paroles de Paul lorsqu'il déclara au geôlier « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». L'apôtre Jean écrit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On peut comprendre pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Les démons croient en Dieu. Sont-ils sauvés pour autant? L'apôtre Jacques écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent, mais ils refusent de se repentir, de changer. Ils espèrent toujours l'emporter sur Dieu. Voilà pourquoi, juste avant le retour du Christ, ils renouvelleront leur attaque contre le trône de Dieu, comme cela est décrit dans Apocalypse, au chapitre 12. Jacques poursuit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme, autrement dit sans souffle, est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Abraham croyait en Dieu, Rahab aussi, mais en plus, ils obéirent à Dieu, ils agirent, ils accomplirent ce que Dieu attendait d'eux, et ils furent justifiés, non par leur foi seulement. Et si quelqu'un dit croire en Dieu sans pratiquer sa volonté, alors, comme l'apôtre Jacques l'écrit, cette foi est morte, elle est inutile, elle est inefficace. Croire en Dieu, croire au Seigneur Jésus, ne suffit donc pas, et c'est certainement ce que Paul et Silas annoncèrent au geôlier, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, et cela avant de les baptiser.